Vous écoutez France Culture.
Le Salon Noir. Une fois n'est pas coutume, ce que vous propose aujourd'hui le Salon Noir est un beau livre, non pas un de ces coffee table books que l'on expose, mais un livre à la croisée de la science, de l'histoire et de l'art, qui plonge surtout à la fois dans un passé très lointain et dans l'actualité la plus brûlante. Oui, nous le savons, les collections du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre regorgent d'objets issus d'une culture que notre monde occidental juge sans pareil. Guillemette Andreu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre et publiez donc « Objets d'Égypte, des rives du Nil au bord de la Seine », 11 parcours sur lesquels nous allons bien entendu revenir. Mais avant toute chose, Guillemette Andreu, j'aimerais savoir si votre discipline, l'égyptologie, est réellement de l'archéologie.
Eh bien, tout dépend de la définition qu'on donne à l'archéologie. Si l'archéologie, c'est l'enquête du passé, si c'est la recherche de la compréhension des civilisations antiques, oui, l'égyptologie relève tout à fait, c'est de l'archéologie. Mais si l'archéologie, c'est aller sur des chantiers de fouilles et explorer le sol, ça n'est pas une bonne définition de l'égyptologie qui est vraiment l'étude de l'Égypte ancienne. Et pour nous, au Louvre, depuis le prédynastique, depuis environ le début du 4e millénaire jusqu'à la fin de l'époque copte au 7e siècle de notre ère.
Oui, mais le papyrus est omniprésent
oui.
Dans l'égyptologie. Alors, c'est peut-être sa spécificité forte.
Absolument, l'égyptologie, c'est quand même indissociable de l'étude des textes. Et étudier les textes, ça demande de nombreuses années d'études et une bibliothèque et un savoir-faire que l'on acquiert plutôt assis à une table et maintenant devant un ordinateur qu'en allant sur le chantier.
Raconter l'histoire des collections du Louvre, par exemple, revêt aujourd'hui une importance toute particulière et permet de découvrir le mode d'acquisition de ces objets. C'est très important.
C'est très important parce que les objets, une fois qu'ils sont inscrits à l'inventaire dans nos collections, ont une histoire très longue, depuis leur fabrication par les artisans égyptiens jusqu'à leur présentation dans nos vitrines ou leur conservation dans nos réserves. Donc il est évident que tout compte pour comprendre l'œuvre. L'histoire de l'objet, lorsqu'il est entré dans une collection de musée, elle est multiple. Elle est archéologique, elle est aussi historique et le 19e siècle et le 20e siècle jouent un rôle très important dans l'histoire. La meilleure compréhension de l'objet.
Justement, l'époque donc, est capitale. Aujourd'hui, il n'y a plus d'échange. Et il faut bien dire peut-être aussi que beaucoup d'objets égyptologiques ne sont pas parvenus par des faits de guerre. On pense bien sûr à Napoléon.
Et, alors évidemment,
c'est toujours, du moins à Bonaparte.
C'est toujours très agréable d'être invité pour pouvoir parler de ce sujet parce qu'il y a une idée reçue, horriblement reçue et tout à fait fausse, qui voudrait que les collections égyptiennes du département du Louvre sont dues au butin de guerre de Bonaparte. Or, il faut refaire un peu d'histoire de France et se souvenir que l'expédition Bonaparte a finalement été un fiasco militaire, que les Britanniques sont venus nous battre en rade d'Aboukir et que pour pouvoir rentrer en France, les soldats de Bonaparte ont dû remettre aux Britanniques leur butin archéologique. Donc, tout ce que les soldats de Bonaparte avaient pu récolter sur les vestiges pharaoniques ont été remis aux Britanniques, ce qui fait que la pierre de Rosette, trouvée par le général Menou, est maintenant le fleuron du British Museum.
La France possède une place particulière au sein de l'égyptologie. Durant un siècle, les antiquités égyptiennes ont été gérées par des Français.
Oui.
Alors c'est peut-être un cas d'histoire très particulier.
C'est un cas d'histoire qui remonte encore un peu plus loin, puisque c'est quand même Jean-François Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes. Donc il faut remonter au début du XXe siècle, l'expédition de Bonaparte, la publication de la description de l'Égypte, l'engouement de la France et de l'élite française pour tout ce qui vient d'Égypte, le déchiffrement des hiéroglyphes et ensuite quelques personnages complètement, extraordinairement inspirés et avec une vocation chevillée au corps qui sont d'abord Auguste Mariette, puis Maspero, qui ont permis de sauver le patrimoine égyptien et de créer sur place une institution patrimoniale qui fait que tout ce qui vient des chantiers de fouilles est finalement étudié et connu. Alors c'est vrai que ce sont des Français à qui l'Égypte ottomane, il faut bien le dire à l'époque, a confié la direction des services d'antiquité. Ce qui fait que notre place est prépondérante et que pendant près d'un siècle, jusqu'en 1952, pour la petite histoire, il faut savoir que le dernier directeur des services d'antiquité était non seulement un Français, mais c'était un chanoine. Donc ça montre une vraie tolérance quand même des Égyptiens par rapport à un poste quand même éminemment politique et important qui était le directeur du service d'antiquité.
Vous parliez de Mariette. Mariette tenta de faire naître la notion de patrimoine national aux yeux des Égyptiens.
En tout cas, aux yeux des autorités égyptiennes, c'est sûr qu'il a été quand même absolument affolé par tous les pillages et par les vandalismes. Il faut savoir que du temps de Mariette, les temples étaient débités pour être transformés en chaux. C'était du calcaire qui permettait de fabriquer une chaux parfaite. Et il a essayé d'interrompre ces vandalismes, ces débitages de monuments pharaoniques. Et il a réussi à convaincre les antiquités, mais enfin avec plus ou moins de succès. Comme vous le savez.
Maspero, Mariette sont des gens qui vont travailler bien sûr pour la France, mais aussi beaucoup pour l'Égypte.
Ah mais tout à fait.
Quelquefois même peut-être plus pour l'Égypte.
Bien sûr, et d'ailleurs Mariette a été payé par... Il est devenu fonctionnaire du gouvernement égyptien. Il n'a pas renoncé à son identité française, mais il est devenu fonctionnaire du gouvernement égyptien. Et récemment encore, Jean-Philippe Loher, qui était l'archéologue de Saqqara, il faut savoir que quand il a été mis à la retraite par le CNRS, il a été récupéré par les autorités égyptiennes et il est devenu fonctionnaire du gouvernement égyptien pour continuer son travail à Saqqara.
Nombre d'objets du Louvre sont issus de ce que les archéologues appellent les partages. De quoi s'agit-il ?
Alors, les partages de fouilles, c'était une tradition qui permettait à la fin d'une campagne un peu fructueuse ou de plusieurs campagnes de fouilles menées par des équipes françaises, de partager entre les musées égyptiens et la France, et en principe le musée du Louvre, qui est évidemment le meilleur destinataire pour ces objets, des produits de leurs fouilles. Mais il faut quand même se souvenir que les Égyptiens, évidemment, ne donnaient en partage de fouilles que les doublons. Quand il y avait des unicas, quand c'était des pièces tout à fait extraordinaires, tout restait au musée du Caire ou dans les autres musées égyptiens. Il faut savoir aussi que les Français qui dirigeaient le service d'antiquité en 1922, c'était Maspero, se sont totalement opposés au dépeçage du trésor de Toutankhamon. Si Toutankhamon est intact et resté complètement complet au musée du Caire, c'est grâce à la direction des services d'antiquité du musée du Caire qui était à l'époque, c'est d'ailleurs qui était dirigé par les Français.
Autrement,
c'était Lacot, c'était pas Maspero.
Il partait vers où ? Vers les États-Unis ? Vers
Alors,
l'Angleterre ?
C'était plutôt l'Angleterre parce que les sponsors et, le fouilleur étaient Carter et Carnarvon, des Britanniques.
Ces partages se réalisent bien sûr au 19e et cela jusqu'en 1952.
Oui, en 1952, l'histoire de France et surtout l'histoire de l'Égypte ont connu quelques bouleversements. Et Nasser, surtout à partir de 1956 et des affaires de Suez, on a vu s'interrompre cette tradition du partage de fouilles. C'est-à-dire que le patrimoine égyptien est resté en Égypte. Mais il faut aussi reconnaître que les pays fouilleurs avaient déjà vu leur collection s'enrichir de façon tout à fait considérable grâce au partage de fouilles.
Aujourd'hui, les fouilles françaises n'ont plus du tout de partage au travers du monde.
Non, plus du tout. En tout cas, pas en Égypte. Je ne peux pas parler. Je crois que peut-être qu'il y a des dépôts quand même à long terme du côté du Proche-Orient, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. En Égypte, c'est terminé. Au Soudan, on a eu un partage en 1996 du site de Sedinga, qui est un site qui avait été fouillé par les équipes françaises, du professeur Leclan. Et on peut imaginer que les Soudanais sont encore favorables au partage de fouilles.
Aujourd'hui, les déclarations du chef du Conseil suprême des antiquités égyptiennes autour de la réclamation de certains biens détenus par les grands musées occidentaux sont actuellement omniprésentes et personne ne semble y échapper. Londres, Paris, Berlin ?
Oui, et Paris. Effectivement, il y a des chefs-d'œuvre, des emblèmes, on va dire, des symboles qui sont conservés à Berlin, la tête de Nefertiti. Au British Museum, il s'agit de la pierre de Rosette. Et à Paris, récemment, on a eu effectivement... on a remis au gouvernement égyptien des peintures qui avaient été acquises par le Louvre récemment et dont les Égyptiens ont demandé le retour, la remise. Je crois qu'il ne faut pas parler de restitution parce qu'il n'y a pas eu de vol. Donc s'il n'y a pas de vol, ce n'est pas une restitution, c'est une remise.
Le buste de Nefertiti, c'est quand même le clou du musée berlinois.
Oui, ça serait... je ne pense pas que les Allemands aillent jusqu'à le rendre ou le prêter, ça me paraît tellement emblématique de Berlin et du Neues Museum de Berlin. Je ne vois pas du tout qu'il retourne en Égypte. Vous savez, il faut bien voir que je comprends très bien qu'on soit choqué quand on est égyptien de voir ces chefs-d'œuvre dans les vitrines des musées européens ou américains. Mais il faut aussi voir que ces musées sont une partie intégrante du système économique égyptien. C'est-à-dire que c'est parce que les enfants qui deviennent ensuite adultes voient les beautés de l'art égyptien dans nos vitrines, qu'ensuite ils vont en Égypte et qu'ils vont visiter l'Égypte et qu'ils y vont 12 fois, 15 fois. Moi, je connais des gens qui vont chaque année en Égypte et c'est parce que les visites du Louvre entretiennent finalement cette passion pour l'Égypte où ils se rendent régulièrement, où ils vont dépenser leur argent.
D'où provenaient les 5 fragments de fresques rendus il y a quelques jours à l'Égypte par Nicolas Sarkozy ?
Eh bien, ces fragments de peinture venaient d'une tombe qui se trouve à Drabulnaga, dans la nécropole thébaine, face à Louxor. C'était la tombe d'un prince dont le nom était Tétiki, qui est datable, disons, de 1550 avant Jésus-Christ, fin 17e, début 18e dynastie. C'était une tombe. C'est une tombe importante parce que justement, on est à la charnière sur le plan artistique. On est à la fin d'une époque et au début d'une autre. Et cette tombe était réputée perdue. Quand on lit les livres sur la nécropole thébaine des années 90, on considérait que cette tombe était perdue et elle n'existait plus dans la nécropole quand on se promenait dans la nécropole. Il se trouve qu'ensuite, on s'est rendu compte en 2008, à la faveur de destructions dues au réaménagement de tout ce secteur par le gouverneur de Louxor, on s'est rendu compte que des habitations modernes de paysans cachaient l'entrée de cette tombe et que sans doute il y avait eu des vandalismes et des pillages de cette tombe dans les années 80 et 90. Mais c'est vrai que le Louvre avait acquis ses peintures de toute bonne foi, considérant que cette tombe était perdue. Et c'était une façon finalement d'en sauver ce qu'on pouvait en trouver sur le marché de l'art.
Justement, le Louvre, donc, vous le disiez à l'instant, les avait récemment acquis en toute bonne foi. Il s'agit là donc aussi d'un problème intrinsèque au marché de l'art.
Oui, il s'agit d'un...
Et un grand trafic aussi international.
Oui. C'est évident parce que on est obligé de croire ce que nous disent les marchands. Donc s'ils sont de bonne foi, il y en a heureusement, eh bien on a raison de les croire. Et puis s'ils ne le sont pas, eh bien on est dans une situation assez compliquée. Et c'est vrai qu'ils fournissent des documents qui peuvent être plus ou moins fiables. Il faut aussi savoir que le Louvre, depuis 2004, c'est-à-dire après l'acquisition de ses peintures, a mis en place une commission d'acquisition qui rendrait impossible ce genre d'acquisition. Maintenant, on est quand même en train de verrouiller au mieux toutes les possibilités d'infraction. Parce que personnellement, moi, ça m'a occupé presque toute l'année écoulée, cette histoire. Et on a quand même autre chose à faire. On est là pour conserver, on n'est pas là pour rendre. Donc, on va essayer de ne plus jamais acquérir d'œuvres susceptibles d'être réclamées par la suite.
Pour mieux conserver les objets, les grands établissements d'Europe prônent l'universalisme. S'agit-il là d'un réel, voire d'un bon argument ?
Oui, moi je considère que c'est un bon argument parce que c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est grâce à cette présentation d'œuvres tout à fait stupéfiantes, éblouissantes qui viennent des rives du Nil que l'on peut avoir envie d'être égyptologue, que l'on peut avoir envie d'étudier l'histoire ancienne et que l'on peut avoir envie de mieux connaître la culture égyptienne. Et quand on va en Égypte, on découvre non seulement la culture pharaonique, mais on découvre l'Égypte d'aujourd'hui, qui est un pays extraordinairement hospitalier et qu'on a envie de mieux connaître chaque fois.
Donc, ce n'est pas un problème que l'Égypte possède, par exemple, des peintures impressionnistes.
Alors voilà, effectivement. Bon, là, je parle en tant que Française et non pas en tant que conservateur de musée, mais au musée du Caire, Mahmoud Khalil, qui se trouve à côté de l'ambassade de France, il y a vraiment une extraordinaire collection de peintures impressionnistes et de sculptures de Rodin. Enfin, tout ce qui est à Orsay. On va dire qu'il y a un mini musée d'Orsay au Caire. Eh bien, moi, je suis ravie que les Égyptiens puissent contempler ce qui appartient au patrimoine universel. Et la peinture impressionniste, la création française entre la fin du 19e et le début du 20e, ça fait partie maintenant du patrimoine international, universel. Et il est heureux que les Égyptiens puissent en profiter comme nous, on peut profiter de leur patrimoine au musée du Louvre.
Comme dans d'autres grandes capitales du monde aussi,
oui,
bien sûr. Guillemette Andreu, la question est difficile, mais n'y a-t-il pas une forme de panarabisme, la défense de l'identité arabe et de son destin partagé dans les réclamations égyptiennes ?
Sans doute qu'il y a dans tous les pays du Proche-Orient une vague un peu nationaliste. Il suffit de lire la presse égyptienne pour s'en rendre compte. Il est envisageable d'imaginer que le Conseil suprême des Antiquités profite de cette vague pour réclamer cette restitution. Ça, il est évident que ce sont des mouvements qui sont extrêmement populaires en Égypte. Quand Zayawas a récupéré les peintures égyptiennes du Louvre, je crois que le peuple égyptien en a conçu une grande fierté. Donc, bon, c'est évident qu'on est dans cette vague-là. Maintenant, est-ce que cela ne veut pas dire que pendant trop longtemps, on n'a pas su aider les Égyptiens à mieux s'approprier leur patrimoine, à mieux les conserver, à mieux les étudier. Il y a peut-être aussi ce souci de retour, en fait, sur des années non seulement de colonialisme, mais de post-colonialisme. Enfin, moi, je considère que la deuxième moitié du XXe siècle aurait dû être une meilleure occasion d'entrer dans des vraies coopérations franco-égyptiennes.
Revenons à votre ouvrage et à Karnak. Karnak est sans nul doute le plus grand ensemble sacré d'Égypte, où la coopération franco-égyptienne, engagée en 1828, perdure toujours. Avec des hauts et des bas, avec des aléas.
Oui, ça perdure. Alors, c'est vrai que les Français n'ont plus le monopole de Karnak. Les Américains y sont assez bien installés aussi. Mais il y a toujours le centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, qui là est un bon exemple de coopération franco-égyptienne. Simplement, on peut aussi dire que peut-être que le CNRS ne donne pas tous les moyens qui seraient nécessaires à mes collègues qui font ce qu'ils peuvent pour maintenir une présence française importante à Karnak. Le gros travail à Karnak, vous savez, la grande difficulté à Karnak, comme souvent en Égypte, c'est que le sous-sol et le sol sont encore riches d'objets à découvrir ou de monuments à mettre au jour. Donc, est-ce qu'il faut se contenter de faire, on va dire, de la maintenance, de la restauration, de la reconstitution, de l'anastylose, ou est-ce qu'on peut continuer de fouiller ? C'est un dilemme que nous connaissons quotidiennement sur un chantier de fouilles en Égypte. Et je crois qu'il faudrait mieux, finalement, insister sur les aspects de restauration et d'anastylose à Karnak que de poursuivre des fouilles.
Deir el-Médineh, quant à lui, tient une place très particulière dans l'égyptologie. En 1922, Bernard Bruyère ne tente plus de découvrir des objets à tout prix, mais de comprendre ce site, un site très particulier.
Oui, c'est un site très particulier puisque c'est un site profane. C'est un site qui montre les vestiges d'une agglomération qui abritait les artisans qui travaillaient au creusement et la décoration des tombes royales dans la vallée des rois et dans la vallée des reines. Et il est évident que ce site est incroyablement précieux puisqu'il nous donne accès tout d'un coup à la vie privée, à la vie personnelle, à la création personnelle, à la vie quotidienne de ces familles qui ont vécu là pendant plus de trois siècles. Et tout ça est extrêmement important pour nous parce que tout d'un coup, par exemple, on a en face de nous des personnalités. Il y a des gens dont on connaît très bien l'écriture. Donc quand on tombe sur un texte écrit par l'un de ses scribes, on dit « Ah, c'est encore Kenem Rechef avec son écriture de cochon. Bon, qu'est-ce qu'il a encore à nous dire ?» etc. On est quand même rentré dans une intimité extraordinaire avec cette population. Et seul Deir el-Médineh, pour le moment, nous donne accès à cette meilleure connaissance du privé égyptien, je dirais.
Alors bien sûr, c'est quelques grandes découvertes, comme quelques belles tombes inviolées de Sénéphère en 1928. C'est aussi la fouille d'un grand puits et la collecte de milliers de textes dont vous nous parliez, ces fameux ostracas.
Oui.
Donc une source là aussi capitale.
Alors c'est une source capitale et d'ailleurs j'ai un petit scoop à vous donner que je connais que depuis hier, c'est que les ostraca, pour rappeler, ce sont des éclats de calcaire ou des tessons qui sont inscrits dans une écriture qu'on appelle le hiératique, qui est une cursive développée à partir des hiéroglyphes. Et ces textes sont comme des brouillons, comme des notes, ce sont des carnets de notes en fait. Et donc là encore une fois, on a accès à une documentation écrite qui n'est pas du tout, qui ne relève pas du tout de texte officiel. Et on n'est pas dans la lecture du journal officiel, alors que finalement ce qu'il y a écrit sur les temples, c'est comme si vous lisiez un missel, ou si ce qu'il y a écrit sur des papyrus administratifs, c'est comme si vous lisiez le journal officiel. Là, tout d'un coup, vous avez accès à un autre type de documentation qui est beaucoup plus personnelle, encore une fois, ou religieuse, ou donc des lettres d'amour ou des règlements de compte juridiques, etc. Et donc, j'ai confié des ostraca de Derelle Médiné que nous conservons au Louvre à un collègue qui s'appelle Pierre Grandet, qui est un historien et un grand spécialiste de cette documentation. Et hier, il m'a envoyé un courrier en me disant que sur un des ostraca, il avait repéré une copie d'un texte des pyramides. Donc, ça veut dire que les textes des pyramides, c'est vers 400 avant Jésus-Christ, et là on est en 1200 avant Jésus-Christ, donc 13 siècles après, un scribe égyptien ou un prêtre a eu envie, sur un ostracon, de répéter un texte des pyramides. C'est tout à fait important pour la pérennité de cette documentation religieuse.
Guillemette Andreu, vous avez récemment pris position pour une égyptologie du modeste, loin de Thèbes, Karnak, Alexandrie ou Tanis. Vous prenez que les fouilles françaises interviennent désormais dans la prévention. Il s'agirait là d'une réelle nouvelle orientation de l'égyptologie française.
En fait, du travail sur le terrain. C'est évident qu'on a finalement mis au jour des choses tout à fait spectaculaires, admirables et dont on ne peut nier l'intérêt esthétique, artistique et culturel. Mais il n'empêche que maintenant, notre travail, c'est de revenir à des travaux plus humbles, plus modestes, qui permettraient de mieux conditionner tout ce qu'on a trouvé, de mieux les étudier et de s'intéresser finalement à des témoignages un peu ténus la population qui a produit ces artefacts.
Et puis peut-être aussi sauver toute l'archéologie sur les travaux d'aménagement du territoire qui sont, bien sûr, on peut imaginer, extrêmement destructeurs.
Il faut bien voir que c'est aussi ce que nous demandent les Égyptiens. Les Égyptiens nous demandent toujours de faire, on va dire un vilain mot anglais, site management, mais l'aménagement de sites, c'est vraiment dans les priorités que nous imposent les Égyptiens. Ils nous demandent aussi de travailler sur les secteurs archéologiques qui sont menacés par exemple par des barrages ou par des systèmes d'irrigation qui risquent de mettre en eau et de ruiner définitivement des vestiges.
La mémoire de Bernard Bruyère, le fouilleur de Derelle Médiné, n'est pas sortie du cercle de l'égyptologie. L'archéologie du modeste paie probablement moins que celle des temples et des tombes royales.
Oui, sans doute. Alors Bernard Bruyère, c'est effectivement très symptomatique, alors que c'est quand même quelqu'un qui a laissé des carnets de fouilles admirables, qui sont des modèles, et il faudra continuer de travailler comme lui tellement.
Et puis ces fouilles sont extrêmement excitantes.
Tout à fait. Mais alors Bernard Bruyère, il a été victime de ce qu'était l'égyptologie française à cette époque, c'est-à-dire que la noblesse, c'était la philologie, et l'archéologie, c'était quand même les hommes de terrain. Donc les hommes de terrain étaient toujours un peu, disons pas méprisés, mais ils étaient regardés avec une certaine condescendance par les philologues, qui étaient les vrais et les seuls savants dans notre discipline. On a un peu changé cette tendance.
Alors, Derelle Médiné est aussi un cas très particulier. Les premières grèves attestées de l'humanité.
Oui.
On ne peut pas ne pas le citer.
Absolument. Une grève sous Ramsès III. Les équipes qui travaillaient dans la tombe en avaient assez de ne plus être payées. C'est-à-dire, ils étaient non pas payés en argent, mais en aliments, en nourriture, en boissons et en vêtements, et quelquefois on leur donnait un âne. Enfin bon, il y a tout un système de troc. Et là, tout d'un coup, ils n'étaient plus du tout approvisionnés et ils en ont eu assez. Ils ont fait un sitting, ils ont arrêté de travailler.
En dehors des circuits touristiques, Tanis se trouve dans le delta oriental du Nil. La ville revêt un intérêt considérable car elle a été capitale des pharaons de la 21e et 22e dynastie. En 1939, Pierre Montet réalise la découverte dont rêve peut-être secrètement tout égyptologue.
Oui, Et le malheureux Pierre Monté n'a pas eu de chance puisque ça s'est passé juste au moment du début de la Deuxième Guerre mondiale et donc il n'a pas eu le succès médiatique auquel il pouvait tout à fait légitimement rêver. Et c'est vrai qu'il a fait une découverte magnifique. Tout ce qu'on peut voir au musée du Caire de ses découvertes montre des masques en or et une vaisselle en argent vraiment éblouissante. À propos de Tanis, c'est toujours un chantier qui est dirigé par des Français. Et j'ai le plaisir aussi de vous donner un autre scoop, c'est que Philippe Brissot, qui a repris la direction du chantier depuis maintenant plus de 20 ans, vient de découvrir le temple du lac, le lac sacré du temple de Mout, qui est la parèdre du dieu Amon. Et on est tout à fait maintenant convaincu que Tanis est évidemment légitimement appelé la Thèbes du Nord, car il y a un parallèle exact entre les monuments religieux de Tanis et ceux de la Thèbes de Karnak et de Louxor.
Y mettant dans votre livre, vous avez pris le parti de montrer à la fois des objets au Louvre et aussi lors de leur découverte, car l'égyptologie, bien sûr, possède une extraordinaire documentation photographique de l'époque.
Oui, on a des archives tout à fait éblouissantes et je dois dire que l'Institut français d'archéologie orientale du Caire nous a donné accès très largement à ces archives photographiques et c'est grâce à eux que, en majorité, on a pu illustrer ce livre avec des photos, évidemment, qui ont toujours le charme des photos début XXe siècle, où on voit des dames, non pas en crinoline, mais presque. Enfin, il y a quelque chose d'assez touchant, en fait, dans l'évocation de ces vies d'archéologues qui vivaient avec leur famille et qui découvraient ces objets que nous conservons maintenant.
Et puis pour Tanis, la statue de Panémérite d'époque ptolémaïque est aussi très intéressante, puisque son buste est au Louvre, la tête au Caire.
Oui, la tête avait été découverte par Mariette à Tanis et le buste par Monté quelques décennies plus tard. Eh bien, voilà, c'est l'histoire de l'archéologie et c'est ce qui fait qu'il faut aller et au Caire et à Paris pour aimer l'Égypte.
Et puis, quelquefois aussi, certaines expositions comme Tanis, je crois, avaient réussi à remettre l'ensemble.
Tout à fait. On a vu l'exposition à Tanis en 87, puis ensuite l'exposition d'empereur au Petit Palais sur Alexandrie ont permis de raccorder la tête et le buste.
La statuaire donc de Tanis est extrêmement importante. Et puis, il faut citer aussi ce fameux sphinx de granit rose qui accueille les visiteurs au Louvre.
Oui.
Justement, il provient lui aussi de Tanis.
Il provient de Tanis et c'est l'emblème, un des emblèmes du département. Après avoir parcouru le Louvre médiéval, le visiteur est accueilli par le sphinx A23 qui vient de Tanis, sur lequel d'ailleurs il y a eu des grands débats. On ne sait plus si c'est ici les Ancien Empire. Maintenant, on le situe au Moyen Empire. Enfin, c'est un très bel exemple de cette statue monumentale, tout à fait impressionnante, qu'ont créé les Égyptiens.
Guy Métendre, une dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de l'égyptologie, tant du côté des musées que du terrain des fouilles et des découvertes?
Oh, je la vois dans une vraie coopération avec nos collègues égyptiens. C'est-à-dire que si on veut être égyptologue, il faut aimer l'Égypte et il faut ne pas se forcer, avoir un vrai plaisir, un vrai bonheur à travailler avec les collègues égyptiens qui vont très vite dans une professionnalisation exemplaire.
Et en deux mots aussi, vous avez un nouveau projet donc autour de Méroé.
Oui.
En 5 secondes.
Alors de mars à septembre en 2010 au musée du Louvre, une exposition qui parlera de Méroé, un site majeur au Soudan.
Guy Métendreux, merci beaucoup. Donc à lire Objet d'Égypte des rives du Nil au bord de la Seine que vous avez dirigé et publié aux éditions Le Passage, Musée du Louvre édition. La semaine prochaine, nous évoquerons les dernières découvertes réalisées dans la grotte Chauvet. Le Salon Noir était réalisé par Pierret Legras, la technique Vincent Rouet. Vous pouvez bien sûr écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.com.